C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Dandenbourg. Auteur Stendhal, 1783-1842. Français. Écrivain, brièvement militaire, employé dans l'intendance des armées, fonctionnaire puis diplomate. Sans autre argent que ses salaires et ses droits d'auteur. Athée. Politique, gauche, en tout cas bonapartiste, et le seul écrivain français conséquent ayant toujours approuvé la décapitation de Louis XVI. Hétérosexuel. Œuvre, La Chartreuse de Parme, roman 1839. Personnage, Fabrice Dadlongo. Adaptations nombreuses au cinéma comme celle de Christian Jacques en 1948, parfois indirectes comme le Prima della Rivoluzione de Bernardo Bertolucci en 1964. Opéra d'Henri Soguet en 1939, comédie musicale de la revue Takarazuka au Japon en 1982. Stendhal était le type même d'écrivain qui n'écrivait pour personne. Je parle de ses livres de littérature. Pour le public, il écrivait des livres qui marchaient assez bien, des livres touristiques et sur l'art. Comme ses Stendhal, ils ne sont jamais mauvais, mais ses grands livres, ses romans, n'ont eu de succès que posthume. Je rappelle que le fameux article de Balzac, le saluant dans la Revue de Paris, dit que depuis 10 mois que cette œuvre a paru, il n'y a pas eu un seul journaliste qui l'ait ni lu, ni comprise, ni étudié, qui l'ait annoncé, analysé et loué, qui même y ait fait allusion. Les éloges de Balzac n'y ont rien changé et il a fallu les années 1860, après la mort de Stendhal sorti de l'obscurité par Taine dans un article de la Nouvelle Revue de Paris, pour que Fabrice Dadlongo devienne une des amours littéraires du monde entier. Ce qui m'a frappé en relisant La Chartreuse de Parme pour cette émission, c'est combien Fabrice, que Stendhal croit le héros de son histoire, il l'appelle sans arrêt « notre héros », parce qu'il se trouve à toutes les pages ou presque, l'est beaucoup moins que sa tante Gina en permanence à la manœuvre. Fabrice n'agit pas, ou plutôt, il n'agit qu'en une circonstance quand il décide au début de s'enrôler dans l'armée française et de combattre pour Napoléon, bien plus que pour la France dont il n'a rien à faire, il est italien. Et une fois que cela a eu lieu, qu'il a à peine combattu et que Napoléon est tombé, il n'agit plus, il est agi. Même quand il tue le comédien Giletti, qui le soupçonnait de coucher avec sa bonne amie, il ne le fait qu'en se défendant d'une agression et sans l'avoir voulu. Le reste du temps, il sert à l'amour, aux ambitions ou aux calculs de sa tante Gina, de l'amant de cœur de celle-ci, le comte Mosca, et de prétexte aux petites machinations et vengeances de la cour de Parme. Avec La Chartreuse de Parme, Stendhal publiait un roman bonapartiste, en tout cas anti-absolutiste, dans un régime bourbonien, et il y entre une intention politique manifeste. En même temps, il n'était pas si paradoxal que cela, puisqu'on vivait un revival napoléonien. Le retour des cendres de Napoléon, décidé par Louis-Philippe, a eu lieu en 1840. Qui est Fabrice Dadlongo? Pour en parler, je reçois Arthur Chevalier, éditeur, qui publie cette semaine un Napoléon sans Bonaparte aux éditions du Cerf, dont je recommande la lecture, car c'est son livre, son premier livre, dont la fougue n'aurait sûrement pas déplu à Stendhal. Arthur Chevalier est d'ailleurs membre du Stendhal Club. Arthur Chevalier, à quoi ressemble physiquement Fabrice Dadlongo?
Nous avons 3 indications sur Fabrice Dadlongo. Une donnée par le narrateur, il est pâle, de teint pâle. Les deux autres, c'est Fabrice lui-même qui les donne. Il a les cheveux châtains. Et il répète lui-même qu'il est pâle. Donc, c'est 3 occurrences.
Alors,
Il est joli. Autre occurrence.
Il faut dire que son physique évolue, puisque au début du livre, il est enfant, et dans le cœur même de l'histoire, il a 23 ans. Et il est d'abord écrit par opposition à son père, qui est gros et blafard.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, la deuxième fois que lui-même se qualifie physiquement, c'est encore par comparaison, puisque c'est après avoir vu un gros maréchal, où il dit, tiens, en Italie, nous n'avons pas de physique comme ça, et donc malheureusement, je ne serai jamais un héros de la grande armée, puisque je ne ressemble pas à ça. Et c'est là qu'il se décrit.
Alors, de quelle classe sociale vient-il, ce Fabrice Dadlongo?
D'une classe sociale haute, puisque son père est marquis, et qu'il est un marquis conservateur du nord de l'Italie, autour du lac de Côme, donc dans la région du Piémont. Et du côté de sa tante Gina, que vous évoquez, elle est, elle, moins riche, mais au moment où les Français occupent l'Italie de 1796 à 1800, puis de 1800 à 1814. Elle fait partie de l'élite de la région, puisque elle fait partie de la cour du roi Eugène, le fils adoptif de Napoléon, qui est vice-roi d'Italie à ce moment-là.
Alors ce Fabrice, il a une mère qui l'adore, qui est un peu effacée, et une tante qui l'adore encore plus, je l'ai mentionné tout à l'heure, qui est la sœur de son père, la fameuse Gina del Longo.
Oui, Gina est le modèle de Fabrice, puisque elle le sort, au sens propre du terme, à Milan, dès qu'elle peut. C'est-à-dire que Fabrice grandit dans le château de son père, mais elle le fait venir à Milan, où elle le sort à la cour du roi Eugène. Et donc c'est un monde non seulement de plaisir, mais aussi un monde beaucoup plus libéral que celui qu'il connaît avec son marquis de père, qui lui est excessivement conservateur et monarchiste, donc dans l'opposition à cette époque.
Alors, ce qui est intéressant, c'est dans l'enfance de Fabrice, c'est qu'il est élevé par les jésuites et que lui-même, dans sa première jeunesse, il est très, très réactionnaire.
Il est réactionnaire, il a un abbé pour tuteur, si on peut dire, précepteur. Alors, un abbé nuancé, qui certes dit que les Lumières, c'est une chose mauvaise, mais qui néanmoins ne jette pas l'opprobre sur tous les écrivains des Lumières. Donc, Fabrice ne lit, Stendhal le dit précisément, que des livres de jésuites et que des livres religieux, mais l'abbé qui a créé Stendhal n'est pas la caricature d'un abbé réactionnaire, antilibéral et anti-révolution. Il invite Fabrice à réfléchir sur les idées dites progressistes à ce moment-là.
Et puis, Fabrice, c'est une chose un peu surprenante quand on y pense, devient subitement bonapartiste. Et au fond, au tout début, on ne sait pas bien pourquoi, parce qu'on a affaire à un gamin qui est élevé par des jésuites réactionnaires, et tout d'un coup, le voici qui décide de s'amouracher, enfin qui décide pas, qui s'amourache de Napoléon, et qui décide de le rejoindre. Mais l'explication est donnée plus tard dans le livre, et c'est une cause que je trouve assez charmante.
Oui, il lit des livres dans une bibliothèque consacrée à Napoléon avec avidité. Effectivement, on l'apprend plus tard.
Je ne pensais pas à ça. Je pense qu'en beaucoup plus tard dans le livre, sa tante raconte que quand il était tout petit et qu'il avait 5 ans, son premier mari, qui était un bonapartiste et qui avait été soldat dans les armées de Napoléon, lui racontait ses souvenirs et lui mettait son casque et lui donnait son grand sabre que le petit Fabrice traînait traînait tout enfant qu'il était derrière lui. Et je pense que ça, c'est la petite chose qui a enclenché l'imagination bonapartiste de Fabrice.
Oui, c'est effectivement au début c'est un peu soudain, puisque à part le fait, ça vient encore de sa tante, puisque son mari est assassiné, hein, et elle jure de le venger, et d'une certaine façon, Fabrice, à ce moment-là, du moins c'est la seule explication qu'on peut avoir pour son engouement pour Bonaparte, décide un peu de le venger et épouse cette cause, et décide de partir pour la France, uniquement parce que sa tante haït les assassins de son mari qui, d'après toute évidence, sont des monarchistes et des ultras.
Fabrice a des réactions d'enfant tout le temps, du début à la fin pour moi, et d'ailleurs dans le meilleur sens du terme, je trouve que c'est un enfant. Cette façon qu'il a de décider de partir pour la France vient aussi d'une chose que nous avons probablement oubliée, que vous évoquez dans votre livre, c'est la fascination que pouvait exercer Napoléon. Napoléon rendait positivement les gens amoureux de lui. D'ailleurs, dans un tableau qu'on peut voir à la Malmaison et que Daphné Abgral mettra sur le site de l'émission, on voit un grognard regarder Bonaparte avec un regard positivement amoureux.
Oui, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'évidemment, la légende napoléonienne avait bien fait les choses. Napoléon était divinisé. Et deuxièmement, à cette époque, c'est-à-dire de 1830 à 1840, la nostalgie de la gloire de l'Empire est très très présente parmi le peuple français, mais au-delà, les peuples qui avaient été libérés par Napoléon. Et deuxièmement, et c'est peut-être plus important, il y a en France, mais aussi dans le nord de l'Italie, puisque le nord de l'Italie a contribué militairement, je veux dire, aux campagnes de l'Empire, comme toutes les provinces conquises, il y a aussi une sorte d'hommage permanent rendu aux derniers soldats des dernières batailles, puisque on a l'impression qu'on ne veut pas honorer les campagnes de la Grande Armée parce qu'elles sont censées représenter les batailles de la Révolution française. Donc dans un monde réactionnaire ou en tout cas monarchiste, on ne veut plus en entendre parler. Donc ces deux phénomènes concomitants font qu'effectivement la divinisation de Napoléon se répand, et lui-même d'ailleurs incarne, je veux dire individuellement, toutes les tendances libérales qui ont pu se rencontrer en Europe de 1825, mettons, à 1840 et au-delà 48.
Combattre pour Napoléon plutôt que pour la France, disais-je dans ma présentation, pour les étrangers, ou la plupart des étrangers, car par exemple Kleist le détestait, Napoléon était une idée de libération.
C'était une idée de libération qui s'était répandue à partir donc des années, tout au début des années 1830, grâce à la franc-maçonnerie, aux loges de la Charbonnerie, qui remplissaient à peu près le même rôle et qui étaient excessivement présentes donc du coup en Italie.
Les Carbonieri,
oui. Et ces petites structures, ces petites fédérations mobilisaient une jeunesse européenne qui n'était certainement pas réactionnaire et qui d'ailleurs, de 1830 à 1848, par convulsion, s'est révoltée contre toutes les monarchies autrichiennes, hollandaises, russes. Ça a été des mouvements convulsifs, permanents et très violents à chaque fois, réprimés d'ailleurs de façon très très violente.
Alors tout le début du livre, c'est donc cette fameuse bataille de Waterloo où Fabrice se retrouve presque par hasard. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, la scène est très très longue et oui. Il ne faut pas raconter ça en détail, on s'y perdrait, mais dites-moi un peu ce qui se passe.
Donc on apprend, comme vous l'avez dit, subrepticement que Napoléon vient de débarquer. Fabrice, en cette ligne, décide de partir pour la France. À Golfe-Juan, donc c'est le début des 100 jours, il rentre de l'île d'Elbe et ça va le mener à la bataille de Waterloo. Fabrice apprend son retour en Italie, dans le château de son père. Il décide immédiatement de partir. Sa tante libérale lui donne de l'argent, des Napoléons, pour qu'il puisse financer son voyage. Évidemment, à ce moment-là, l'Autriche, qui a la main mise sur l'Italie, ferme les frontières. Du coup, Fabrice décide de passer par la Suisse, par la ville de Lugano. Ce qu'il fait, il arrive à Paris. À Paris, il y passe une semaine, Stendhal le précise, et il va tous les matins aux Tuileries voir Napoléon passer la garde en revue en rêvant de lui parler. Ce qui, évidemment, ne se produit jamais. Puis, finalement, il entend dire quelque part que l'armée va se réunir à Maubeuge. Donc, il part pour Maubeuge, et là, il discute avec un maréchal des logis. Fabrice est italien, donc il parle avec un accent italien. Le maréchal des logis le prend pour un espion, le fait emprisonner. Fabrice, pour s'échapper de cette prison, donc nous sommes à la frontière belge, hein, donc à côté du champ de bataille, charme, malgré lui, la femme du geôlier qui accepte de le laisser partir et elle lui donne un uniforme de hussard, un hussard qui est mort une semaine avant dans les geôles de la prison. Fabrice enfile cet uniforme, prend le sabre et part. Là, il rencontre les régiments qui viennent de battre les Prussiens à la bataille de Ligny, qui est la bataille qui a précédé la veille de Waterloo, qui est une victoire française. Et au son du canon, simplement, il se rapproche du champ de bataille. Véritablement, à la vue et au son, le canon va rythmer toute la scène de Waterloo, hein,
oui,
au fur et à mesure.
Les boulets passer, exactement, hacher les herbages.
Absolument. Et aux abords du champ de bataille, il tombe sur une vivandière, donc qui est une cantinière, et à laquelle il raconte toute son histoire, la vérité. Elle décide de l'aider, elle comprend qu'elle a face à elle un blanc bec, c'est son expression, et elle l'amène vers le régiment auquel il est censé appartenir. Mais en fait, il est déguisé, donc il arrive à ce régiment. Là-dessus, les autres le prennent pour un des leurs. Il se réunit autour d'un groupe de généraux. Et là, c'est le premier bouleversement de Fabrice, puisque le général qu'il a devant lui, c'est le maréchal Ney. Donc le maréchal Ney donne des ordres. Là-dessus, Fabrice ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais il y a des mouvements de désordre, beaucoup de cadavres, et il fait quelques kilomètres à travers les prairies avec l'escorte du maréchal Ney. Ensuite, Fabrice, et ça change le récit, se met à boire de l'eau de vie. Donc il est saoul. Tout de suite après s'être saoulé avec ses camarades, un nouveau groupe de cavaliers passe, et cette fois-ci, un maréchal des logis dit que c'est l'empereur. Fabrice ne le voit pas, dit que c'est à cause de l'alcool qu'il ne le voit pas, sans doute aussi à cause du fait que personne ne pouvait le voir. Il est accablé en disant « Mon Dieu, j'ai croisé l'empereur et je n'ai même pas été capable de le reconnaître ni même de l'apercevoir ». Puis, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les Prussiens qui tombent sur l'aile gauche de l'armée de Napoléon sont en train de laminer l'armée française. Là-dessus, Fabrice s'échappe avec les autres dans le désordre le plus complet, retombe sur la vivandière qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Du coup, Fabrice lui dit « Bah voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe ». Elle lui donne un nouveau cheval, enfin un cheval en tout cas pour qu'il puisse s'échapper. il part à cheval, on lui vole son cheval.
Et donc, à la fin, Fabrice a raté sa bataille.
Fabrice a raté la bataille.
Sa bataille de Waterloo. Et alors, il y a beaucoup de péripéties dans le roman. Il est dénoncé à la police par son frère Ascagne, ou Ascagne, dont on n'a pas parlé, mais qui est un autre gros blafard comme son père. Fabrice a aussi d'ailleurs deux sœurs qui apparaissent à peine dans le roman et qui ne comptent pas. Et ce qu'il y a d'intéressant, Arthur Chevalier, dans ce personnage de Fabrice, je trouve que c'est un personnage d'Italien, imaginé par un Français. Et pour Stendhal, il n'arrête pas de nous dire que son Fabrice a des qualités spécifiquement italiennes, et de manière surtout négative, c'est qu'il n'est pas vaniteux.
Oui, et il le dit dès le début, puisque c'est quasiment l'introduction du roman, c'est une comparaison entre l'état de l'Italie et l'état de la France, l'état du peuple français, l'état du peuple italien. Et effectivement, Stendhal voit non seulement l'Italie comme un peuple moins vaniteux, mais aussi moins hypocrite et moins qui est moins en représentation. Il le dit aussi au moment des scènes de la Scala, où il y a donc Gina et le comte Mosca qui se rencontrent pour la première fois. Et il fait une comparaison entre la façon dont les gens conversent dans les loges de la Scala et la façon dont les gens conversent dans les loges de l'Opéra à Paris. Et il dit qu'il y a plus de simplicité, que le tutoiement arrive beaucoup plus rapidement, qu'il ne passe pas pour une familiarité, mais comme une marque de chaleur, de convivialité.
C'est un roman qui essentialise beaucoup. Hein. C'est les Italiens, les Italiens, les Italiens. Et je pense que Stendhal est probablement responsable d'une idéalisation de l'Italie qui vient de ce qu'il haïssait Paris. Et comme il trouvait que Paris était vaniteux, il fallait que les Italiens ne le soient pas, parce que il n'y a que lui qui pense que les Italiens qui ne sont pas vaniteux, non ?
Oui, c'est un peu étrange et très caricatural. Dans le même temps, étant donné qu'il y avait été consul et qu'il y avait été à peu près plus heureux qu'à Paris, on peut le comprendre.
Alors, Fabrice fait deux très belles choses. C'est que il se pose tout au long du roman, on l'apprend un peu vers la fin, la question de savoir s'il a le droit de dire qu'il a assisté à la bataille de Waterloo. Et si oui, s'il peut dire qu'il a combattu, c'est-à-dire que sa qualité essentielle est qu'il est honnête. Et l'autre, à un certain moment, c'est que dans un moment dramatique, il fait un détour pour aller revoir un arbre qu'il a aimé enfant. Et c'est encore l'enfance. Et cette partie d'enfance, je pense, qui fait que dans un milieu de corruption générale comme la cour de Parme et de ruse comme celle du personnage de Mosca, qui d'autre part est admirable, Fabrice, je crois, conserve cette part de naïveté. Et c'est ça sa qualité essentielle.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le mot « enfance » revient quasiment toutes les 10 pages au moins. C'est très, très fréquent. C'est d'autant plus frappant au début, au moment de la bataille de Waterloo, où c'est une bataille quand même monstrueuse, Stendhal le dit, et le mot « enfance » revient. D'ailleurs, tous les personnages qui l'entourent le qualifient d'enfant. Enfant, blanc-bec, c'est répété énormément.
Ce qui est un peu paradoxal d'une certaine façon, parce que, enfin, c'est pas paradoxal, Stendhal veut montrer par là que Fabrice a un esprit d'enfance, mais à l'époque tout le monde était jeune, donc normalement personne ne devrait s'étonner de voir un garçon de 21 ans sur un champ de bataille, tout le monde avait 17 ans.
Oui, mais ce qu'il y a, c'est que Stendhal associe de façon un peu étrange l'enfance à Napoléon, c'est-à-dire que Fabrice est sincère et courageux, donc il est enfantin, donc il n'est pas corrompu, donc naturellement il va vers Napoléon. Or, ça prouve une chose très simple, qui est que quelles qu'aient été les convictions de Stendhal vis-à-vis de Napoléon, dont on sait qu'il l'a aimé, l'état d'esprit de la France à ce moment-là est que la pureté, la vertu, si on peut dire, est du côté des bonapartistes, si on peut dire, en tout cas, des fans de Napoléon, puisque c'est le parti libéral, c'est le parti humain, c'est le parti éclairé.
Nous allons entendre un extrait de l'opéra La Chartreuse de Parme, musique d'Henri Soguet, livret d'Armand Lunel, créé donc en 1939.
Oh, Fabrice, es-tu ? Vivant, as-tu touché à ce repas? Oh, mon favori, dis-moi, vite, l'ordre fatal, qui t'a donné ce dos, ce repas, qui t'a empoisonné?
Mademoiselle, c'est trop vous soucier de moi. N'est-ce point qu'auprès de votre fiancé qu'en ce moment il faudrait être et non auprès d'un pauvre prisonnier qui ne demande qu'à disparaître?
Non, non, Fabrice, ne raffiez pas et dites-moi, je veux m'enfuir. Si vous avez touché à ce repas, il est bon. demoiselle, permettez-moi de vous complimenter. C'est un noble et beau mariage qui fera votre bonheur. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aimiez le marquis?
Ah, ne soyez pas impitoyable, ne me traitez pas notre folle, Fabrice, car si pour vous sauver qu'il m'a fallu céder à la colère de mon père, qui me menaçait du combat si je n'acceptais pas ce nouveau prétendant.
Arthur Chevalier, politiquement, Stendhal est tout à fait dans la ligne de cette phrase prononcée par Bonaparte lors d'un discours au Luxembourg à la signature du traité de Campofort, mieux que voici, le peuple français, pour être libre, avait des rois à combattre.
Stendhal était de gauche, il était contre les rois, il l'a écrit partout, dans son journal, dans ses écrits autobiographiques. La France ne sera jamais heureuse que sans roi, il l'a dit. C'est une opinion constante chez Stendhal. Jamais il n'a été royaliste, et quant à Napoléon, il l'a été très rapidement, puis cette idée lui a passé, et il a eu la conviction que jamais ça ne reviendrait en France.
Il l'a rencontré ?
Qui, pardon ?
Stendhal a rencontré Napoléon ?
Jamais.
Il l'a
vu. Il l'a pas rencontré.
Il l'a pas rencontré. Il l'a, envers lui, pour être exact, parce que Stendhal étant Stendhal, même quand il est partisan, il a un petit esprit citronné qui fait qu'il se contredit lui-même. Il a, envers Napoléon, un mélange d'amour, mais aussi de déception. Il n'est pas dupe de l'admiration qu'il lui porte.
Stendhal est peut-être l'inventeur de la division entre Napoléon et Bonaparte, c'est-à-dire que Stendhal admirait le général de la République et méprisait l'empereur, donc comme Beethoven, comme d'autres artistes qui, au début, ont admiré... Le garçon de 25 ans, enfin 30 ans, qui a été capable tout à coup de mettre de l'ordre dans la Révolution française, de ne conserver que ce qu'il y avait de mieux, la République, la liberté, l'égalité. Et puis, quand il s'est mis à conquérir l'Europe, à mener des guerres arbitraires, là, effectivement, ils l'ont lâché. Et Stendhal est de cet avis-là. Il a trouvé qu'il avait reproduit, il le dit, les vices de l'Ancien Régime.
Le sujet réel de la Chartreuse de Parme, ça n'est pas tellement le bonapartisme, c'est le mépris de l'absolutisme. Et la phrase est dite, non pas par Fabrice, mais par Clélia, et la voici, « Ô pouvoir absolu, quand cesseras-tu de peser sur l'Italie ?» Et c'est cela, en plus du bonapartisme apparent, je crois, que les critiques de la Restauration n'ont pas supporté, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas aussi parlé de Stendhal, parce qu'ils ne voulaient pas choquer le pouvoir en disant trop de bien de ce roman.
Oui, c'est très probable, d'autant que Louis-Philippe, qui effectivement a organisé le retour des cendres de Napoléon, l'a fait uniquement parce qu'il savait parfaitement que c'était quelque chose de populaire parmi le peuple. Mais lui voyait très bien le danger qu'il y avait à ça, et d'ailleurs il maintiendra toutes les lois d'exil envers la famille Bonaparte et envers les collaborateurs de Bonaparte. Donc il n'y avait pas de sympathie de Louis-Philippe pour les Bonaparte, certainement pas. Il y a une tentative de manipulation politique, mais tout le monde s'en méfiait énormément. Et il a fêté, enfin, l'élite de la monarchie de Juillet a fêté la mort du fils de Napoléon et toutes les dates qui permettaient d'éloigner un peu plus le rêve napoléonien de la France.
Le héros stendhalien a quelque chose, pour moi, de Stendhal en maigre et en beau, car Stendhal était gros et laid, du moins tant qu'il ne parlait pas, car je crois que dès qu'il se mettait à parler, il était d'une séduction irrésistible. Et Fabrice, qu'il a surtout, comme tout bon héros stendhalien, et peut-être comme son créateur, et qu'il est maladroit.
Oui, il est maladroit, ça se voit dans les scènes de combat notamment, malgré lui, puisque vous avez cité le moment où il se battait au moment de son duel, mais il y a aussi une autre scène au moment de la bataille de Waterloo où il combat malgré lui contre 4 Prussiens au sabre, et bien évidemment, il se défend parce qu'il est courageux, mais avec maladresse, et il saigne encore une fois, il s'inquiète de son visage, donc oui, il l'est.
Mais je parlais pas tant de maladresse physique que de maladresse sociale, il est en permanence il commet en permanence des faux pas à cause de son esprit d'enfance, probablement qui lui fait commettre des naïvetés, et la naïveté est le contraire de la société, et on voit bien d'ailleurs le contraste dans le roman, dans les scènes très très brillantes du début sur la cour de Parme, qui est du Machiavel en action, et que Fabrice, à côté de ça, a l'air d'un dadais.
Mais c'est d'ailleurs ce qui inquiète énormément et ce qui agace un peu le comte Mosca, qui lui est un politicien de très grande envergure qui maîtrise parfaitement les codes et qui le dit, Stendhal lui fait dire qu'il est inquiet par cette spontanéité qui plaît beaucoup à la comtesse et le comte se rend compte qu'il est à la duchesse pardon et le comte se rend compte qu'il est incapable d'avoir la même.
Et en même temps, le comte, qui est aussi un personnage merveilleux de ce livre, a des élans vers la jalousie et finalement il ne l'est jamais, et ça c'est assez beau. C'est dans La Chartreuse de Parme, Arthur Chevalier, que Stendhal a cette phrase fameuse: la politique dans une œuvre littéraire, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert, quelque chose de grossier et auquel pourtant il n'est pas possible de refuser son attention. Et c'est la politique le plus intéressant du livre. Car pour moi, les histoires d'amour évidemment sont là, mais comme contrepoint un peu médiéval, cette histoire de Fabrice et Clélia dans leur tour, mais la politique, c'est éblouissant.
Et la politique d'abord au sens noble, le début est purement politique, puisque ce sont des idées politiques sur la Révolution et la monarchie, et puis ensuite ce ne sont effectivement que des intrigues de cour, des intrigues politiques, puisque ce sont des assassinats, des querelles de ministères, des postes qu'il y a à pourvoir, des scènes de flatterie, des scènes de courage face à des puissants, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas passer, des scènes de manipulation, de corruption, tout ce qu'on adore.
Je me demande si la leçon de La Chartreuse de Parme n'est pas, quand on est bonapartiste, le seul moyen de réussir, c'est d'être Napoléon.
Oui, c'est très possible, puisque le bonapartisme n'existe pas. C'est un courant politique qui a été inventé a posteriori. Et la seule raison qui explique qu'on se tourne vers Napoléon, c'est précisément lui, parce que il est excessivement romanesque et qu'il n'y a pas d'admiration de Napoléon sans admiration de sa personne, j'allais même dire de fascination physique pour lui.
Dans la revue du Stendhal Club, Christophe Honoré a critiqué la distribution de Gérard Philipe dans le rôle de Fabrice. Alors en lui laissant son opinion, qui verriez-vous, vous, pour interpréter le rôle de Fabrice aujourd'hui ?
Eh bien moi je verrais très bien Romain Duris interpréter le rôle de Fabrice.
Ah ben c'est marrant parce que j'allais dire la même chose.
Eh ben voilà.
Il n'est pas tout à fait châtain, mais il n'est pas tout à fait beau, mais...
Mais il est assez joli et il est un peu châtain quand même.
Il est un peu châtain quand même. Il n'a pas une beauté aristocratique comme... Parce qu'au début du roman, un personnage compare Fabrice, ça nous donne une indication sur son physique, à un Giorgione. Et Giorgione, c'est une beauté plus fine, un peu féminine d'ailleurs. D'ailleurs, Fabrice, peut-être comme Julien, Lucien Leven, je ne me rappelle plus, mais a peut-être une nuance un peu féminine de sa beauté, non ?
En tout cas, il est dit en permanence qu'il a de la délicatesse, donc si la délicatesse est féminine, ce dont je ne suis pas sûr, mais en tout cas, si c'est le cas, oui.
Arthur Chevalier, en rappelant le titre de votre essai aux éditions du Cerf, Napoléon sans Bonaparte, je vous pose la question finale de personnage en personne. Que vous a appris le personnage de Fabrice Dadlongo ?
Il m'a appris que le bonapartisme n'existait pas et qu'il n'y avait d'admiration pour Napoléon que d'admiration pour son aventure, sa personne, et qu'au fond, c'est une sorte de fascination de dessin animé, quasiment.
C'était Personnage en personne, le 50e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage d'Adrien Deume, créé par Albert Cohen dans Belle du Seigneur.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de recherche et de documentation Daphné Amgral, prise de son Marie le Peintre.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
C'était un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces milliers.